Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Oh non. Oui, oh non.
Bonjour à tous, c'est Marine au micro de Cinérama. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu en équipe réduite, mais nous aurons eh bien, du merveilleux, de la science-fiction, de la musique. Je vais vous parler de Ghost in the Shell, film extrêmement attendu. Alors, déception ou réussite, je vous dirai tout ça. Je vais également vous parler de La Belle et la Bête, l'adaptation du dessin animé par les mêmes studios Disney. Et puis, nous consacrerons une partie de l'émission au lien entre musique et cinéma. Vincent a rencontré le réalisateur Christian Philibert, auteur d'un documentaire sur le groupe Massilia Sound System. Massilia Sound System, le film. Et nous aurons également dans cette émission une seconde interview. Ce sera Émilie Loiseau qui nous parlera, toujours au micro de Vincent, de son rapport au cinéma. On commence tout de suite en faisant un bond dans le Japon du futur avec Ghost in the Shell.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Dans un futur proche mais chaotique qui a vu les hommes et les machines se rapprocher au point que la plupart des humains subissent eux aussi des améliorations technologiques, nous suivons le quotidien du Major, personnage féminin mais pas vraiment humain, qui est à la tête d'une brigade anti-cybercriminalité. Bien qu'elle possède une âme dépourvue de souvenirs, son corps a entièrement été fabriqué, d'où des capacités physiques hors normes. Alors que ses enquêtes la poussent à combattre le Puppet Master, un hacker inatteignable, le Major se questionne de plus en plus sur son identité et sur sa part d'humanité.
J'ai vu quelqu'un... Il n'était pas humain.
Alors Ghost in the Shell constituait dès le départ un défi de taille puisqu'il s'agissait d'adapter la saga Ghost in the Shell, œuvre phare de la culture manga nippone en version américaine. Ghost in the Shell, c'était à la base une série de mangas de Masamune Shirow qui a ensuite été adaptée en 95 en version animée par Mamoru Oshii, réalisateur emblématique qui continuera d'explorer par la suite le genre de l'anticipation à travers entre autres le film culte mais méconnu Avalon. Ajoutez à cela une série de 2 saisons de 26 épisodes et vous comprendrez que Ghost in the Shell, c'est toute une saga adulée d'un public de puristes, ce qui rendait le projet de film extrêmement complexe et casse-gueule. Alors on ne peut pas dire que Ghost in the Shell, version américaine donc, soit fidèle à l'original. Pour apprécier le film, il faut accepter qu'il s'agisse non pas d'une adaptation mais d'une réécriture. On a gardé les personnages, on a changé pas mal de leurs intentions, on a globalement, c'est vrai, changé le scénario mais en gardant l'univers, on a même poussé l'ambiguïté jusqu'à refaire à l'identique certains plans de l'animé tout en les plaçant dans un autre contexte, ce qui peut être perturbant pour les fans de la première heure. Et on a également ajouté, pour la caution indé, quelques comédiens qui n'ont pas trop l'air de savoir ce qu'ils font là, comme le trop rare Takeshi Kitano ou encore Juliette Binoche.
J'ai des glitches depuis quelque temps.
Et c'est quoi ?
Des échos sensoriels émanant de ton esprit, des ombres, je sais pas trop.
Comment tu sais ce qui est un glitch et ce qui est moi ?
Les glitches ont une texture différente du reste de ton code. Je vois tout, tu sais. Toutes tes pensées, toutes tes décisions.
Donc la vie privée, c'est que pour les humains.
Mais tu es humaine.
Comme si j'avais pas de passé.
Bien sûr que t'as un passé. Avec le temps, tu te sentiras de plus en plus connectée à lui et aux autres. Ouvre et ferme, s'il te plaît. T'as endommagé tes circuits internes.
Peut-être que la prochaine fois, tu me concevras mieux.
Mais finalement, eh bien, l'univers visuel créé est assez riche, même captivant. C'est un film d'action qui baigne paradoxalement dans une grande douceur et qui parvient, et là était le plus dur, à instaurer une vraie atmosphère. Ghost in the Shell garde la poésie de l'œuvre initiale tout en ajoutant suffisamment de scènes d'action, plutôt efficaces d'ailleurs, pour que le film soit conforme aux standards hollywoodiens. Vous savez, ces mêmes standards qui justifient eh bien, que le personnage principal soit interprété par une actrice de type caucasien et surtout, bien plus grave, bien qu'elle passe tout le film nu, qu'elle n'est pas de tétons, comme si, même au cinéma, on devait se taper une putain de censure Instagram. Alors, il est d'ailleurs curieux de remarquer, dans un autre registre, que le personnage du Major, interprété par Scarlett Johansson, rappelle fortement celui qu'elle jouait dans le film Under the Skin. Et on peut également compter parmi ses films abordant le même sujet du transhumanisme, Lucy et Her. L'œuvre originale, Ghost in the Shell, était chargée de questionnements métaphysiques. Cette version américaine n'est pas dépourvue d'âme et lance quelques interrogations sensibles sur l'homme et l'évolution, mais tout de même en version assez édulcorée. Le film n'est pas raté pour autant, il fait office, je dirais, de divertissement de qualité. Ghost in the Shell de Rupert Sanders, c'est sorti le 29 mars au cinéma.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
La musique et le cinéma, voilà deux univers qui s'interpénètrent fréquemment. Non, ce n'est pas sale. Alors, quelle est la vision d'un art sur l'autre? Avec Christian Philibert, c'est le point de vue d'un cinéaste sur un groupe de musique, en l'occurrence le célèbre groupe marseillais Massilia Sound System. Avec Émilie Loiseau, que nous écouterons un peu plus tard, nous aurons la vision d'une chanteuse sur le cinéma, puisqu'elle nous parlera de son rapport au 7e art. Et on commence avec le ragamuffin du groupe Massilia Sound System. Tout de suite, on écoute Vincent qui nous présente le réalisateur Christian Philibert.
Christian Philibert, à ne pas confondre avec Nicolas Philibert, le réalisateur d'Être et Avoir, est un réalisateur à part dans le cinéma français. Déjà, il fait partie, comme Alain Guiraudy par exemple, de ces réalisateurs qui font des films détachés de toute vie parisienne. Les films de Guiraudy, comme ceux de Christian Philibert, se déroulent dans le sud, à bonne distance de la capitale. Le film qui a fait connaître Christian Philibert, c'est Les 4 saisons d'Espigoule, en 1999. Une fable documentaire dans laquelle on ne sait plus ce qui est vrai ou faux et où les accents sont pagnolesques.
À Espigoule, il faut tout changer. Mettez-le sur noir sur blanc. Faut tout changer.
À Espigoule, les arbres, ils vibrent d'une manière différente. Ils sont beaucoup plus... Comment dire?
On n'est pas bien le matin, là, de bonne heure. Ah, tiens, d'accord. Il y a des grimpes, pas une casse-couille.
Sujet plus sérieux mais pris de travers avec un long métrage de fiction, Travail d'arabe en 2002, une comédie qui repose sur son mordant, son ironie, son univers foutraque et ses acteurs.
Moi je suis très content, hein. J'arrive dans un village, putain, je tombe sur des gens, ils sont formidables.
Il me plaît, il est vif quoi, il est vif, il y a une lueur, il y a un truc, il y a quelque chose.
C'est vraiment formidable quoi.
Je fais 8000 lettres sans problème, 1200 euros, mais réponds pas Momo.
C'est mon meilleur oui, hein. Il est agréé comme formigas, c'est un phénomène.
Pas d'habitude, moi en tant qu'arabe, d'habitude je suis tricard quoi.
T'aurais été suédois, je t'aurais parlé de Suède. Je dis arabe, je parle d'arabie.
C'est vraiment excellent, quoi, ce qui m'arrive.
Une fois, Christian Philibert a quitté son sud pour aller plus au sud encore, au Sénégal, avec Africa Yoli. En 2014, dépaysement garanti.
Alors, qu'est-ce que ça fait vraiment?
Et je cours plus vite, je joue mieux au foot, on va savoir. Pas un ballon, là, j'essaye.
Tu veux que je te ramène en France, hein? Pour la misère, hein? La misère et l'ennui.
Voilà maintenant que Christian Philibert nous propose un documentaire sur Massilia Sound System, groupe marseillais qui a plus de 30 ans de concerts et qui rallie à lui toutes les générations. Le réalisateur a tenu à faire un documentaire musical avec Massilia Sound System. Le film, il rend compte de l'univers du groupe traversé de reggae, de ragamuffin et de tchatch occitane. Mais évidemment, ce n'est pas que cela. On entre aussi dans les coulisses, le bus de tournée, les parties de pétanque avant de monter sur scène, les rires comme les tensions à l'intérieur du groupe, mais aussi le public fervent. Et puis, il y a aussi un volet politique. On comprend l'intérêt de Christian Philibert pour un groupe comme Massilia Sound System, très impliqué à Marseille, qui continue à faire régulièrement des concerts ouverts en pleine rue, à réunir un public de différents horizons, sans avoir peur de ses origines. Philibert fait ses films dans le sud, n'est pas soutenu par les télés. À Paris, le cinéma d'Espigoule indiffère. De même, Massilia Sound System s'est refusé à la capitale, tenant à son identité méditerranéenne, mais aussi à garder le cap sur une musique qui lui est propre. Le documentaire parle beaucoup de cela, à travers l'accent, l'occitan et même le raga, qui n'est pas une musique très en vogue, eh bien le documentaire cultive un regard sur la singularité. Alors on peut ne pas s'intéresser, ne pas écouter Massilia Sound System, et c'est mon cas, mais même sans cela, ce documentaire parvient à nous intéresser, car il parle autant de musique que ce que c'est d'être ensemble, en groupe et dans la cité. On écoute Christian Philibert nous parler de Massilia Sound System, le film. Christian Philibert, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de suivre un groupe comme Massilia Sound System?
Depuis pas mal d'années, comme ça, on cherchait, on voyait bien qu'il y avait une proximité entre l'univers d'Espigoule, celui de Massilia, dans les valeurs qu'on défendait, dans cette volonté de proposer un art, une expression populaire, mais au sens noble du terme, qui tire les spectateurs vers le haut, qui soit enraciné comme ça dans une culture, qui soit en résistance aussi à un centralisme parisien, qui revendique une identité ouverte, quoi, contrairement celle que peut prôner le Front National, par exemple. Tous ces points communs, voilà, nous faisaient dire qu'on avait quelque chose à faire ensemble. 30 ans pour un groupe indépendant, c'est absolument exceptionnel. J'ai pas trouvé, maintenant même 33 ans, j'ai pas trouvé d'équivalent dans le paysage musical français.
Massilia, c'est 30 ans.
Je suis pas chrétien, je suis pas athée, je ne suis pas musulman.
C'est Marseille, c'est la province.
Ayoli !
Je suis avec le jeune qui veut avancer. Je suis avec le vieux qui transmet ce qu'il sait.
C'est 30 ans, c'est le bonheur, la liberté et le pastis.
À la fois, Massilia, c'était un groupe qui était toujours vivant. C'était pas un groupe sur lequel on pouvait vraiment bâtir un documentaire historique, biographique. C'était un groupe qui avait plus vraiment d'actualité. Et jusqu'en 2014, quand j'ai appris qu'il s'apprêtait, pas à se reformer, mais à créer une nouvelle dynamique autour d'un nouvel album, d'une nouvelle tournée à l'occasion de leurs 30 ans. Et là, bon, c'est devenu, tout est devenu évident, quoi. Je me dis 30 ans en plus pour un groupe indépendant. Encore, ça aussi, une chose que je partage avec eux, l'indépendance, cette volonté de, voilà, de faire les films que j'ai envie de faire et de ne pas être contraint par la télé. D'ailleurs, la télé n'achète pas mes films, comme eux, Massilia ne passe quasiment pas sur les grosses radios, ne font pas les gros festivals.
3 décennies, 3 millions de litres de pastaga, un de Paul Ricard, raffiné à l'Orangina.
C'est un groupe de fracas parce qu'on expérimente une vie autre.
Et c'est ça, être ragamuffin occident.
Le canevas était assez évident pour moi. Ce qui était moins évident, c'était de savoir comment j'allais relier tout ça. Il n'était pas question d'avoir une voix off. On est d'accord, c'est du documentaire, mais ce n'est pas du documentaire télé. Là, c'était un film pour le cinéma. L'ambition était bien entendu d'arriver à faire un film culte, aussi mythique que l'est le groupe lui-même.
Qu'importe d'où on vient, qui on est, l'important c'est ce qu'on fait, où on est, où on vit.
À un moment donné, tu te dis, bon, mais je vais essayer d'attaquer le monde entier, depuis chez moi, avec mes moyens.
J'ai fait le choix de monter Massilia de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à la fin du tournage, je les ai posés comme ça tous les six, les uns après les autres, et je les ai bombardés de questions. C'est ce matériau qui va lier en fait le film. Donc c'est un film fait de l'intérieur, une immersion comme ça au sein du Massilia, où ils se racontent eux-mêmes. Et c'est un film donc à la fois musical, citoyen, mais festif, comme l'est le groupe. C'est aussi un documentaire, mais c'est avant tout du cinéma.
On a besoin d'être avant-gardiste, on a besoin d'être lumineux, d'avoir des idées qui tuent et de ne pas se sentir complexé.
La musique qu'on fait, si on la joue pas dans le sound system, ça passe pas sur les grandes radios.
Parlons musique. Vous dites que vous voulez faire un film musical. Alors, évidemment, il y a beaucoup de musique. Vous avez rythmé avec des passages où vous les interviewez de front, des passages où vous les suivez. Et puis, on les voit aussi aux prises avec soit leur public, soit dans les quartiers. Enfin, donc, cette dimension politique qui est évidente et qui se voit très bien dans votre film. Mais finalement, alors, la musique, comment vous avez fait pour vous dire à quel moment je m'arrête ? Parce que vous auriez pu en faire encore plus. Et une fois qu'on a vu quel public ils ont, et effectivement, c'est très étonnant parce que c'est un public qui peut être jeune, c'est un public qui peut être âgé, mais bien souvent, il est jeune. Comment vous avez fait, finalement, pour vous dire je veux un film musical, mais comment je traite la musique ?
C'était effectivement très difficile, parce que déjà, il y a toute leur musicographie, tous leurs CD, je sais pas, une dizaine d'albums en tout... avec des morceaux, et puis c'est là où je me suis rendu compte que leur premier album n'avait pas vieilli en plus, ils ne prennent pas une ride, c'est incroyable. Le plus compliqué, c'était le choix des musiques de Massilia même, parce que, comme je vous dis, ils ont fait beaucoup d'albums, et puis là on filme des concerts, alors des concerts ils font entre 1 heure et 2 heures, même le premier fait même 2 heures et demie, donc on a des morceaux qu'on retrouve dans des tas de concerts filmés, avec chaque fois des caméras différentes, tantôt une, deux, trois, des fois six caméra, et arriver à faire le choix, à dire pourquoi tel morceau va être au début ou tel autre va le mettre à la fin, là il a fallu tâtonner, bon, ça c'est l'art du montage, on suit un cheminement, et je sais que j'ai comparé tous les morceaux, j'ai mis des mois et des mois avant que le montage commence, à préparer le montage, chaque fois que je filme un concert, je sélectionnais tout ce qui me paraissait le plus intéressant, je mettais des notes à chaque morceau, je comparais, j'avais tout un tableau comparatif de tous les morceaux.
Mais quel est bleu, mais quel est belle, mais quel est belle, mais quel est bleu, en moi ça me rend joyeux, mais quel est bleu.
Christian Philibert, votre film, donc, vous en parlez, il y a des fans, ils se renouvellent. Quand vous êtes cinéaste et que vous avez envie... Alors, vous avez parlé de la proximité que vous aviez avec Massilia Sound System, donc avec votre sujet. Est-ce que vous imaginez celui qui ne connaît absolument pas le groupe, Massilia ? Est-ce que vous pensez à lui quand vous montez ?
À aucun moment, je n'ai fait ce film pour les fans de Massilia. À aucun moment. Je faisais un film tout public. Et d'ailleurs, j'ai été surpris. Bon, il y a tant de gens que... Parce qu'on a quand même un panel de spectateurs aujourd'hui qui l'a vu à travers toutes ses avant-premières. C'est à peu près 7000 personnes, je crois, qui ont déjà vu le film. Eh ben, c'est étonnant. Des gens qui ne connaissent pas du tout Massilia, qui sont donc emballés, qui se disent « Merde, on a raté quelque chose. » Quoi. Il y a les gens qui n'aiment pas Massilia et qui tombent amoureux du groupe, enfin, ou du moins du film, en tout cas. Ça, c'est quand même assez magique. Et puis, il y a tous ceux qui croient connaître Massilia, mais enfin, qui n'ont une vision que superficielle. Ils connaissent un peu les chansons de Massilia. Ils sont peut-être déjà même allés à des concerts, mais ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et Massilia, ça va bien au-delà d'un simple groupe de musique.
Cet homme est énorme.
Les gens, ils ont envie d'être ensemble, de faire des trucs ensemble.
Pas de problème, pas de problème. Si tu veux écouter la musique que tu aimes, nous. Pas de problème, pas de problème. Viens dans Massilia Sound System.
Voilà, c'était Christian Philibert au micro de Vincent Pourageau. Le documentaire sort le 5 avril. Et on va continuer dans la musique, mais alors avec beaucoup moins de pastaga, puisqu'on va s'envoler vers l'univers merveilleux des contes de fées. Dans un monde où les gens chantent lorsqu'ils parlent tout de suite, je vous propose de retrouver La Belle et la Bête dans Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, il était une fois un prince qu'une malédiction avait transformé en bête monstrueuse et tous les habitants de son château étaient quant à eux changés en objets. Seul l'amour sincère d'une jeune fille pourrait le délivrer du sortilège. Mais comment susciter l'amour lorsque l'on a l'apparence d'une bête ?
Regarde, une fille.
Oui, je vois bien que c'est une fille imbécile.
Et si c'était celle qu'on attendait ?
Il y a quelqu'un ?
Alors, le dessin animé de Walt Disney était sorti en 91. Normalement, tous les gens nés dans les années 80 s'en souviennent comme si c'était hier. Ce nouveau projet avait de quoi faire frémir, puisque non seulement les studios Disney le confiaient au réalisateur Bill Condon, dont les précédents films étaient quand même Twilight 3 et 4, mais en plus, il s'agissait de reprendre plan par plan le dessin animé chansons incluses. Alors, on avait déjà dû subir l'horrible Cendrillon de Kenneth Branagh, film nié à la vilaine réalisation, pleine de décors kitsch en numérique et de dialogues insipides. Mais le cinéma hollywoodien nous avait également réservé quelques bonnes surprises en termes de remakes, comme par exemple Blanche-Neige et le Chasseur, qui revisitait le conte sur le mode gothique et faisait de la princesse une guerrière, ou encore Maléfique, une nouvelle version de La Belle au bois dormant qui était centrée sur la méchante. Heureusement pour nous, cette nouvelle version de La Belle et la Bête appartient plutôt à la deuxième catégorie. La transposition du dessin animé en prise de vue réelle est réussie et les quelques modifications apportées au scénario original sont totalement justifiées par une volonté de modernisation qui n'est pas déplaisante. Pour autant, eh bien, on ne perd rien du charme de l'original, la magie opère, au point que c'en est réellement émouvant, tant le film nous reconnecte avec les émotions de notre enfance. Les décors sont baroques, fastueux, soignés, à la fois respectueux de l'œuvre originale et en même temps bien inspirés. Les effets spéciaux sont réussis et l'interprétation est appréciable. C'est même, eh bien, l'un des rares films que je vous conseillerais de voir en VF, pour le plaisir de vous replonger dans la bande-son que vous avez connue dans votre enfance, donc, car le film reprend non seulement exactement les mêmes dialogues que dans le Walt Disney, mais en plus, ils sont prononcés avec les mêmes voix et les mêmes intonations, ce qui rend l'ensemble assez bluffant. Alors bon, oui, la synchronisation est parfois problématique, puisque plaquer des paroles en français sur des comédiens qui chantent en anglais, ça amène souvent à un rendu qui n'est pas très naturel, mais le plaisir du revival est tel qu'on laisse bien vite tout cela de côté.
Bonjour !
Bonjour !
Bonjour !
Bonjour !
Et on commence par retrouver, sans surprise, le bon vieux pain du boulanger. Tous les matins sont en somme, comme le matin où nous sommes arrivés dans ce village.
Alors, seul bémol, et c'est le cas de le dire, deux nouvelles chansons font leur apparition sans que ce soit justifié. Et malgré les efforts fournis pour les inclure dans le film de la façon la plus naturelle possible, la greffe ne prend pas. On peine vraiment à trouver un intérêt à ces morceaux supplémentaires, d'autant que l'œuvre originale comportait déjà pas mal de passages chantés. Clairement, si vous êtes allergique aux comédies musicales, vous allez passer un moment difficile. Alors, parmi les modifications, on peut également citer le fait que le bibliothécaire, qui était un vieux moche dans le dessin animé, s'est transformé en Beau Black. Bon, pas sûr qu'il y en avait beaucoup dans la France du Moyen-Âge, puisque quand même l'histoire est censée se passer à cette époque, mais pourquoi pas. Et puis, on a également transformer l'un des personnages en personnage gay, pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de Disney. Bon, le personnage s'appelle Le Fou, c'est un peu maladroit, mais c'est un bon début, on va dire. Et puis, autre changement léger mais notable, le personnage de Belle a été quelque peu intensifié. On en a fait une jeune fille émancipée qui voit dans le fait de lire une façon d'échapper à sa condition féminine et qui est donc pour cela en avance sur son temps. En même temps, le personnage étant interprété par Emma Watson, féministe revendiquée, ce n'était pas très surprenant et c'est même très louable. Côté interprétation, justement, rien à redire. Les comédiens sont parfaitement imprégnés des personnages du dessin animé. Et puis, cerise sur le gâteau et clin d'œil aux adultes, lorsqu'à la fin du film, la malédiction est levée. Oui, je pense que je peux me permettre de spoiler un conte qui a été écrit il y a 5 siècles. Lorsque la malédiction est levée et que tous les habitants du château redeviennent humains, ils se transforment en acteurs connus. Alors je ne vous dis pas lesquels, mais la surprise finale est plutôt réussie. Voilà La Belle et la Bête, je vous le conseille si vous êtes nostalgique de votre enfance ou si vous avez des enfants à occuper de bonne façon pendant 1h30. C'est sorti le 22 mars et tout de suite on retrouve une autre voix de velours, celle d'Émilie Loiseau. Vous êtes toujours dans Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
La chanteuse française Émilie Loiseau a le cinéma dans l'ADN. Si elle a pris le chemin de la musique, sa grand-mère Peggy Ashcroft était une comédienne reconnue et connue notamment pour avoir joué dans les 39 marches d'Alfred Hitchcock. Alors quel rapport entretient-on au cinéma lorsque l'on a vu ses ancêtres briller sur grand écran? Quels films ont marqué la chanteuse? Quelles sont pour elle les œuvres importantes du 7e art? Elle répond à toutes ces questions au micro de Vincent Pourageau. Et elle, qui a participé à la composition de plusieurs bandes originales de films, nous parle également dans cette interview du travail et de l'implication que cela représente. On l'écoute.
Bonjour, je suis Émilie Loiseau, auteur-compositeur-interprète, on dit. J'écris en français, en anglais, et c'est un genre de chanson folk, un peu baroque, voilà, acoustique, voilà.
Parlons précisément cinéma. Qu'est-ce que c'est votre cinéma, votre univers cinématographique?
Il y a plein de choses très différentes. Depuis que je suis en tournée, depuis que je sors des 10, seulement le deuxième, donc j'espère que je vais trouver une solution, je dois dire que j'y vais beaucoup moins parce que franchement, je ne trouve pas le temps et quand je rentre à la maison, j'ai envie de dormir. Donc ça, c'est un peu ma grosse frustration, que ce soit par rapport au cinéma ou au théâtre. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont fondée. Il y a les films dans lesquels joue ma grand-mère, qui sont des films peu connus parce que c'était une comédienne de théâtre anglais. Et qu'à part La Route des Indes de David Lean et Les 39 Marches de Hitchcock, elle n'a pas fait des films qui étaient hyper connus. C'était plutôt des films anglais. Et le cinéma anglais à l'époque n'était pas très, très à la mode. Donc il y a Caught on a Train, She's Been Away, des films comme ça qui sont à peine sortis en France. Mais qui ont été des films voilà, qui ont fait partie des choses qui m'ont marqué. Parce que forcément, voir sa grand-mère dans un film quand on est gamin, c'est bizarre. Et puis c'est émouvant en même temps.
Well, here we are. May I come home with you? What's the idea?
Well, I like to.
And it's your funeral. Come on, then there's a bus.
Il y a plein d'autres choses. Je suis une grande fan du cinéma de Jarmusch, par exemple.
That weapon will replace your tongue. You will learn to speak through it. And your poetry will now be written with blood.
You William Blake?
Do you know my poetry?
Les enfants du paradis.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Il y a tous les films aussi de Tim Burton qui font partie de cet aspect lié à la fois à l'enfance, à l'âge adulte et au macabre, qui sont clairement des choses qui me touchent.
Et si Victor et moi... On ne se plaisait pas.
Comme si c'était nécessaire pour se marier.
Quoi d'autre, des films beaucoup plus français, comme Truffaut. Je suis aussi très, très transportée quand je vois tous ces films des années... entre les années 50 et les années... et la fin des années 70 du cinéma français. Parce que, bon, les années 50, c'était pas mon enfance. Hein. Mais les années 70, oui. Et tout ce qu'il y a avant et l'âge d'or de Gabin, de Mastroianni, tout ça, ce sont des choses qui me parlent. J'aime beaucoup voir la France et les comédiens français de cette époque-là. Il y a quelque chose qui me ramène à je sais pas, à des valeurs premières, peut-être, que mes parents m'ont transmis. J'oublie plein de choses.
Donc, si vous deviez choisir un film, ce serait peut-être celui avec votre grand-mère, enfin, un de ceux tournés avec votre grand-mère.
parce que ça vous procure plus d'émotions, ou alors il y en aurait un autre?
Ouais, c'est un film, c'est... Un film, c'est dur. Tout de suite est venu, mais passé dans la tête, le film Gandhi, et que j'ai trouvé incroyable, et que plus je le vois, plus je le trouve incroyable, en fait, et d'une richesse.
La non-coopération a un objectif. Le renversement du gouvernement. La sédition, pour nous, est une arme et un credo. Nous ne devons faire aucun quartier et n'en attendre aucun. Niez-vous avoir écrit ceci?
Pas le moins du monde. Et je vais vous faire gagner du temps, monsieur le président, en déclarant ici sous serment que pour moi, la non-coopération avec le mal est un devoir et l'administration britannique est un mal.
La partie civile n'a rien à ajouter, monsieur le président.
On peut rester sur celui-ci.
Il y en a d'autres, ouais, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres et que c'est pas forcément le seul.
Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant, je vous le fais pas dire. Ah non,
alors bien, on pourrait peut-être parler de votre travail, donc en tant que compositrice sur une bande originale de film. Tout le monde ne le fait pas. Alors c'était quoi le défi sur cette bande originale et comment ça s'est passé?
Le défi fondamental, c'était d'une part que c'était la première fois que je faisais ça, et deuxièmement que ça arrivait au moment du deuxième album, donc c'était un peu deux défis énormes. Et puis c'était de ne pas être inconséquent, de ne pas, pas gâcher le rêve d'un autre. Voilà, et d'arriver même au-delà de ne pas le gâcher, à même le porter, quoi, à ma petite manière toute humble. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que Pef est quelqu'un... D'une part, notre rencontre s'est passée de manière assez amicale parce qu'il a entendu parler de moi par sa fille qui connaissait bien une amie très proche de moi. Et voilà, il est un peu tombé amoureux de ma musique. Et même s'il me demandait à peu près tout sauf ma musique, vraiment, sur cette BO, parce que c'était quelque chose de très riche, de touchant aux Beatles, à Tom Jones et à la musique médiévale, un peu. Donc c'était un espèce de grand écart total. Il a été extrêmement présent et très précis dans ses demandes, même si parfois il changeait d'avis. Il y avait toujours des propositions de sa part, une grande confiance et surtout une grande importance donnée à la musique. Et ça, je crois que c'est génial quand tu fais ça pour la première fois, d'avoir quelqu'un qui donne autant d'importance à ça. Ça m'a emmenée ailleurs.
À l'autre bout du monde.
Parce qu'effectivement, il s'agit de servir le rêve de quelqu'un d'autre. Donc il s'agit de se déplacer un peu en soi-même vers des contrées où on ne serait pas forcément allé. Si l'autre, vous n'avez pas sorti de votre truc à vous et vous n'avez pas mis là, voilà, sur une île, Guerlande.
Je vous annonce que vous héritez du titre de roi de l'île de Guerlande.
Roi, comme dans les magazines. Avec le donjon, le pont-levis. Roi
Paris.
Excusez-moi, mon brave, le prochain départ pour Guerlande, je vous prie.
Guerlande ?
La prochaine navette, c'est ?
La navette ?
Ah d'accord, donc on ne fait pas de phrase en Bretagne.
Bon, du coup, vous aviez vu les images qui avaient été tournées, ou ça s'est passé avant
Les deux, une partie a été composée d'abord avant le tournage parce qu'il fallait que ce soit chanté live. Je pense à Fais battre ton tambour, qui est une chanson que je chante sur mon album et que Sandra Nkake chante dans une église pendant le film. Donc ça, il fallait que ce soit prêt. Il y avait un autre petit morceau que les Iliens de Guerlande chantaient très faux mais magnifiquement sur une barque, et ça aussi, il fallait que ce soit prêt. Et puis ensuite, le reste, effectivement, moi, j'ai continué de composer avec le scénario, avec ce que me disait Pef. Et puis j'ai attendu ensuite les images pour voir si ces morceaux que j'avais écrits étaient valides ou non, pour les retailler dans les bonnes dimensions temporelles et réécrire parfois. Enfin, donc ça a été un mélange des deux.
Et vous n'avez pas eu à réécrire, parce qu'on a déjà entendu ça, hein, des compositeurs pas satisfaits ou le réalisateur pas satisfait. Enfin, il y a forcément une relation.
Si, il y a eu ça. J'ai eu beaucoup de chance. Pef ne cessait de me dire, dis donc, tu te rends pas compte, hein, mais franchement. Tout le monde est tout le temps content et tout. Bon, moi, j'étais tellement, je me mettais tellement la barre là, quoi, hyper haut, que j'avais toujours peur de pas être à la hauteur et tout. Du coup, j'ai vraiment donné beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Heureusement que Pef était là pour me dire, non, mais tu sais, là, c'est cool quand même ce qui se passe. Il y a eu un truc, par exemple, sur une scène qui a pas été mis. Je continue de penser qu'il s'est trompé, mais voilà, il a préféré la musique de référence. C'est au moment des urgences. Il a préféré son truc de référence, que je respecte carrément. Moi, j'avais proposé autre chose qui était très inspiré de ça. Mais voilà, et ça, dans ces moments-là, t'as rien à dire, parce que c'est toi, ta perspective du film, qui est en plus, non pas erronée, mais forcément très différente de la sienne qui est à l'intérieur et qui sait exactement ce qu'il veut faire ressentir à ce moment-là du film et qui a ses impératifs intérieurs. Donc tu peux rien dire, tu peux te battre un peu, tu peux dire oh, je suis pas d'accord, nanana, mais ça, au bout du compte, faut savoir tout de suite que ça sert à rien, quoi. Puis c'est pas une histoire d'ego là pour le coup. Donc, il y a eu peu de ça en fait, hein. Il y a eu ouais, des petites choses à retoucher, des trucs qui, où moi j'étais contente et puis il me disait ouais, non, ça va encore pas, et puis tu le retravailles. Et c'est à la fois bizarre, parce que quand tu fais ton disque toi-même, tu réalises le disque, tu écris, tu composes, tu coécris les arrangements, tu le réalises. Tu te dis, t'étais seul, quoi, t'as tes musiciens, mais quelque part, t'es le chef du bateau. Et là, d'un seul coup, on te demande des comptes. Toi, t'es content d'un truc et c'est plus tout à fait exactement ce qui est attendu. Donc, c'est un peu déstabilisant au début. Et vite, finalement, je trouve que ça recadre un peu les choses et ça fait du bien.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, nous retrouvons des comédies françaises et peut-être même les Power Rangers. C'était Cinérama, à la semaine prochaine.